Je vais commencer avec le rituel habituel de ce genre de rencontre. Je vais commencer par présenter les auteurs et par l'alphabétique, ce qui va encore renforcer le rituel. Jérôme Ferrari, qui est à ma gauche, est enseignant de philosophie, ce qui est un peu réducteur. Ici, quand on vient travailler ou on vient discuter de l'île et du continent, le diable va et vient. Il a enseigné au lycée d'Alger et depuis 2007, il est installé en Corse. Et depuis 2007, il publie un roman par an chez Actes Sud, Dans le secret, Balco Atlantico en 2008, Un dieu, un animal en 2009, et qui est dédié à Riyad Giraud, qui est l'auteur du remarqué Ravissement, qui a été publié en 2007 chez José Corti. Et j'avais préparé cette annonce pour fabriquer un lien avec Jérôme Ferrari, que je ne connais pas, mais il nous expliquera peut-être combien Riyad Giraud a eu de l'importance pour l'écriture de Un dieu, un animal. Alors, très sommairement, et je pense qu'on va rectifier un peu cela, ces romans racontent des histoires quand même de défaites. Des défaites dans lesquelles les personnages tentent de mettre à jour les conditions par lesquelles en eux quelque chose s'en va, quelque chose de vital. Cette défection est aussi, comme le montre particulièrement Un dieu, un animal, une progression, une montée vers la plus haute conscience de soi, dans un monde qui est là, mais que le personnage ne parvient désespérément pas à habiter. Marcello Foïs, son île à lui, c'est la Sardaigne, celle des bandits. Je sais que là aussi, je suis réducteur, mais c'est ce qui est un peu frappant. On va commencer par les clichés. Ces bandits, et qui sont avant tout des révoltés. On n'a pas oublié, pour une certaine génération, le film magique de Vittorio De Sette, Bandi a Orgoloso, qui racontait comment le glissement de paysans à révoltés s'accomplissait dans celui de révolter à bandit, justement. Et c'était même la scène finale, la séquence finale de ce film assez extraordinaire. Marcello Foïs enseigne la littérature à l'université de Bologne. Il écrit des romans policiers. Sempre Caro, Sang du ciel, Les hordes du vent avaient fait découvrir au lecteur la ville de Nuoro. Et cet avocat, poète, enquêteur, assez extraordinaire, je dois dire, Bustiano, qui résout ses enquêtes, notamment en écoutant son père et son grand-père, qui sont pourtant morts depuis bien longtemps, au moment où se déroulent ces enquêtes. Marcello Foïs fait revivre cette Sardaigne si pauvre des années 1890 à 1920 environ, et des histoires sombres qui agitent les êtres dans une incompréhension assez radicale de ceux qui gouvernent. Et le roman Mémoire du vide revient très précisément sur l'histoire d'un bandit, qui est une histoire qui prend la forme d'un mythe littéralement dans ce roman. Il nous éclairera, je pense, sur la personnalité ou la place de ce personnage de Samuel. On va quitter la Méditerranée, on va franchir l'Atlantique et on va en Guadeloupe avec Daniel Maximin. Difficile de résumer rapidement la carrière de Daniel Maximin, on connaît bien. Il a été enseignant, directeur littéraire, producteur d'émissions de radio, directeur régional des affaires culturelles de la Guadeloupe. Il a été chargé de nombreuses missions, notamment celle qui concerne la célébration de l'abolition de l'esclavage, il y a quelques années. Il est romancier, poète. Il est aussi, pour beaucoup, celui qui accompagne de sa présence l'ombre du poète Aimé Césaire. Quelques éditions de poèmes de Césaire qui sont tout à fait essentielles. Daniel Maximin est aussi un passeur, et les poèmes de L'invention des désirades, comme la géographie de la singularité de l'île matrice qui est exposée dans les fruits du cyclone, et l'étude justement la spécificité de cette île parmi les autres îles de la Caraïbe est tout à fait exposée. D'une manière qui prolonge de façon assez nette les romans de la trilogie initiale, L'Isolé Soleil, Soufrière, L'île et une nuit. Alors voilà ces présentations assez rapides qu'on pourra retrouver dans le petit guide de ces rencontres qui a été proposé. Je tenais, avant d'aller plus loin, remercier Florence Verdeil de nous donner l'occasion de cette rencontre qui est si finalement c'est pas si courant, hein, et justement de cette possibilité de fabriquer du lien ou d'étudier ou d'examiner ou de dire un certain nombre de différences entre des espaces finalement extrêmement lointains. Mais on dit aussi, et c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, que la mer Caraïbe, c'est un peu la Méditerranée de cette partie du monde aussi. Donc est-ce que la Méditerranée, ça n'est pas un espace plus ouvert qu'on le dit? Comme l'île. Alors, sur la figure de l'île et de ses allées et retours, quand on recherche un tout petit peu un certain nombre de choses, quand on revient un peu sur nos lectures un peu anciennes, on retrouve un peu toujours les mêmes figures, celle de l'île matrice, celle de l'île mère, sans être nécessairement une île maternelle. Et on a beaucoup glosé sur cette figure qu'on trouve assez souvent. Mais quand on est dans cette figure, tout d'un coup, il y a l'opposé, hein, celle de l'île marge, celle qui est la banlieue des continents. Alors, c'est plus du tout la même chose. Cette réalité, elle est là, têtue, cette double réalité. Quand on s'en éloigne, on est aimanté quand même par cet espace qui est à la fois comme un giron, mais aussi comme un lieu d'enfermement. Ça a été évoqué tout à l'heure, là où, d'une certaine façon, une véritable naissance ne parvient pas à se produire. Dans certains espaces de la Caraïbe, je pense en Haïti particulièrement, et vous évoquez, Daniel, dans votre livre « Le poète Franck Étienne », on a ces pièces de théâtre qui racontent justement l'histoire de ces femmes qui ne parviennent pas à accoucher. On revient toujours à la même case, tant les relations entre les êtres sont marquées par la contrainte. Et ce creuset de l'humanité, c'est aussi, paradoxalement, sa tombe. Et ça, c'est une figure qu'on retrouve chez nos trois auteurs. On en part, on y revient. C'est aussi une énigme, une île nuit. À l'origine, je t'ai rêvé, puis je t'ai inventé, puis tu m'as invité. J'ai suivi avec mon encre le tracé de tes blessures et de ton épanouissement. Mon soufre et ton miel ont répandu la sueur des sentiments, les salives et des saveurs, écrit Daniel Maximin. L'île est écriture, et comme l'écriture, souvent s'éloigne dès lors qu'on s'en approche de trop près. On la nomme dans les interstices à travers ceux qui l'habitent, qui y sont nés ou qui y sont arrivés. À travers aussi, pour la Caraïbe, toutes les histoires du monde qui se sont échouées sur ces îles. Et là aussi, on aura, je crois, un espace de grande différenciation entre les deux lieux, les deux géographies. On la nomme aussi par le détour du regard de l'autre qui semble l'occuper, alors que la réalité de ce qui s'y passe lui échappe à cet autre. On en part parce que pour étudier, sortir de la glu des préjugés qui sans cesse y enferment, on va rejoindre une autre place, un semblant de place aussi. C'est ce que nous raconte très précisément un dieu, un animal de Jérôme Ferrari. Parfois aussi, on a la conscience aiguë qu'il faut en partir pour tenter de mettre fin à la clôture de ces préjugés, le non-développement, le mépris, la marque de la cale par laquelle les ancêtres ont été jetés, l'incompréhension perceptible dans le regard de l'autre. Écrire depuis l'île, c'est sans doute bien cela, ramasser des injures pour en faire des diamants, selon le mot de René Ménil. Alors on peut se poser la question, est-on jamais parti de l'île? Est-ce qu'on peut s'éloigner de ce qui constitue sa propre intériorité? J'ai, je crois, cette question qui sera un des fils de nos échanges, de vos échanges, surtout. Je vous propose que d'abord chacun raconte sa propre expérience de l'île en reprenant le fil des livres que peut-être tout le monde ici n'aura pas lu. Et ma première question, je propose de la poser d'abord à Marcello Foïs. Quelle est d'abord l'expérience du rapport à l'île, justement dans ses allées et retours?
Una frase. Beh, innanzitutto un'idea di spazio.
Cette aventure, une idée d'espace.
Che è uno spazio enorme finché tu vivi dentro l'isola e tutto il territorio che hai a disposizione.
Et c'est un espace énorme dans lequel tu vis le temps que tu restes dans cette île. C'est vraiment un espace énorme.
Quando poi esci, quando varchi il mare, improvvisamente ti rendi conto
Et quand tu sors, quand tu croises la mer, c'est là où tu te rends compte
che quello spazio che tu credevi infinito invece è estremamente
que cet espace que
finito.
tu croyais infini, alla fin de compte, il est fini.
Genera una filosofia dello spazio.
Cela génère une philosophie de l'espace.
Che è una condizione dell'isolano.
C'est-à-dire une condition, la condition de l'homme de l'île.
Che non è necessariamente isolato,
Qui n'est pas isolé.
ma che percepisce il suo territorio come finito.
Mais il perçoit son territoire en tant que quelque chose de fini.
Quando io ero bambino, e i miei genitori dicevano, domani
Quand
andiamo
j'étais gosse, mes parents me disaient: Demain nous allons
a Cagliari. Ecco,
à Cagliari.
Cagliari è l'ultima città a sud
Et
della
déjà,
Sardegna.
Cagliari, c'est la dernière ville tout à fait au sud de la Sardaigne.
Allora io inconsciamente, ma anche inconsciamente,
Et moi, inconsciemment, même si peut-être aussi consciemment,
pensavo tra me e me che per arrivare a Cagliari io dovevo percorrere tutto lo spazio possibile.
Je pensais que pour arriver jusqu'à Cagliari, je devais croiser tout l'espace possible.
E dopo non c'era niente, c'era il
Et
mare.
qu'après ça, il n'y avait plus rien, il n'y avait que la mer.
Quindi nella mia mente di bambino quel viaggio lì, che non sarà più di 200 km,
Donc, dans ma tête d'enfant, de gosse, ce voyage, qu'à la fin de compte, il s'agit de 200 km,
era il viaggio assoluto, cioè
c'était le voyage en absolu.
si arrivava a Finisterre alla fine.
Pratiquement, on arrivait à Finistère.
E questo senso dello spazio, che è la prima cosa
Ce sens de
che mi
l'espace
definisce.
est vraiment la première chose qui me définit.
Perché poi quando sono cresciuto e ho varcato spesso il mare,
En grandissant, bien sûr, après j'ai croisé la mer, je l'ai traversée plusieurs fois.
ecco, la mia sensazione di pace, di felicità, consisteva nell'arrivare al
Et
porto.
ma sensation de paix, de bonheur, était vraiment d'arriver au port.
Anche se poi da lì dovevo andare in posti lontanissimi,
Même si après, de là, du port, je devais m'éloigner, aller dans des endroits très éloignés aussi.
però io quando era finita la navigazione, per me il viaggio era terminato, finalmente
Une
ero
fois
arrivato.
finie la navigation, pour moi, le voyage était terminé.
Perché l'isolano si definisce sulla terra che pesta.
Parce que l'homme de l'île se définit à lui-même sur la terre sur laquelle il marche, qu'il piétine.
E questo gli permette, per esempio, permette a noi sardi
Et cela nous permet à nous, la
di
Sardaigne,
essere sardi dappertutto.
d'être sardes partout.
Perché questa filosofia dello spazio si ripercuote, è genetica, tu ce
Parce
l'hai
que cette
dentro.
philosophie de l'espace est quelque chose de génétique, on l'a en soi, à l'intérieur.
E quindi te la porti dentro, è una cultura che impari da
Et on
bambino.
la mène avec, c'est une culture qu'on apprend tout petit.
Quindi il mio rapporto attuale con la Sardegna non è mai di nostalgia.
Et ma relation actuelle avec la Sardaigne, ce n'est jamais une relation de nostalgie.
Perché non ho mai l'impressione di abbandonarla.
Car j'ai l'impression de ne jamais la quitter.
E quindi ho l'impressione invece di portarmela dietro
Mon
nei
impression,
territori che
c'est
attraverso.
que je l'amène avec moi par les territoires que je dois traverser.
Ecco, e quindi questo è il mio rapporto. E poi, vabbè, c'è anche da dire che
Oh, il faut dire aussi
io abito a Bologna.
que j'habite à Bologne.
Tra Bologna e Olbia ci sono poi 50 minuti di
Et
aereo.
entre Bologne et Olbia, il y a 50 minutes d'avion.
Adesso abbiamo la fortuna quindi che che i mezzi di trasporto ci aiutano a sentire meno
pesanti. C'est la chance que nous avons que les moyens de transport nous permettent de considérer que tout est moins lourd.
Ecco, per cui la mia vera patria ufficialmente è l'aereo ultimamente.
Et ma vraie patrie en réalité dernièrement c'est l'avion.
Oui, dans le même sens, j'ai rencontré la semaine dernière un écrivain et enseignant haïtien qui m'expliquait qu'en fait il habite à Port-au-Prince mais il travaille à New York. Voilà, c'est ce qui est devenu maintenant possible, effectivement. Hein, on est sur ces espaces-là. Daniel, quelle est justement cette expérience du rapport à Lille, peut-être par différence avec ce que vient de nous dire Marcello sur cette Sardaigne intérieure, mais qui finalement est aussi une Sardaigne aérienne, si on a bien compris.
Ce qui m'a frappé, c'est Marcello a dit une chose qui est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que l'île est suffisamment petite pour qu'on l'emmène avec soi. Et donc il n'y a aucun sentiment de ce qu'on appelle ailleurs l'exil, c'est-à-dire la sortie de chez soi, puisque l'île est dans une telle réduction qu'au fond on peut très concrètement la mettre dans sa poche et partir avec. Parce que l'insulaire sait que la mer est, comme je dis dans un poème, la mer est une fatalité au bout de chaque sentier. Donc l'espace est réduit. Donc il n'y a pas le sentiment qu'on appartient à un espace qui est tellement étendu qu'on ne saurait soit s'en échapper ou qu'on ne saurait l'emporter avec soi. Et je crois que ça nous donne l'image que l'île n'est rien d'autre que la condition humaine. C'est-à-dire que nous sommes tous, ça aussi je dis ça dans un poème, mais c'est une phrase qui pour moi est très fondatrice, nous sommes tous l'un à l'autre des îles, à double tour, la clé de l'une entre les mains de l'autre. Ça c'est la condition collective. Mais la condition, nous sommes unis, nous sommes enfermés dans un temps, un espace, une chair, un corps. Et il faut la mer, enfin c'est tout l'air tout autour, la condition des autres. Et donc l'insularité nous donne une conscience très forte de l'humanité. Et donc on peut se déplacer. Et de la même manière comme mon corps peut se déplacer vers un autre, ça veut dire que tout ce qui est le contenu de l'île, quelque part n'est pas absolument fiché dans la terre de l'île, mais est quelque chose de transportable aussi. C'est-à-dire, l'île, c'est pas purement géographique. C'est-à-dire quelque chose qui est fiché jusqu'au fond des océans et qui surgit comme ça, grâce par exemple chez nous à un volcan qui a fait surgir du milieu de l'eau. C'est quelque chose qui nous dit comment, au fond, nous sommes de la terre entière en étant un point de cette terre entière. Et que nous ne sommes pas fichés dans l'espace continental qui donnerait l'illusion d'une grande appartenance ou d'être tout petit à l'intérieur d'un grand tout. Le grand tout pour l'insulaire, c'est la terre entière. Et de la même manière que pour nous, des îles volcaniques, eh bien, nous savons que tout volcan va directement par sa lave au centre et se relie à d'autres volcans, mais d'une manière qui est parfois très concrète. C'est-à-dire une éruption volcanique a toujours, par exemple, chez nous, un lien avec une éruption d'à côté. Il y a trois volcans soufrières aux Antilles, enfin en Amérique du Caraïbe. Et la soufrière de Montserrat, quand elle tousse, la soufrière de Guadeloupe réagit. Et on sait bien que, et ça c'est très important, que les îles, la clé de l'une entre les mains de l'autre, c'est que par en dessous, elles se touchent. Par en dessous, elles participent à quelque chose d'aussi profond que les continents. Sauf qu'elles n'ont pas la prétention, en quelque sorte, continentale à afficher un enracinement et une fixité face à la mer, face à l'air et face au feu. C'est-à-dire, il y a, au fond, dans notre île, une espèce d'équilibre des éléments, terre, mer, eau, feu et air, qui fait en quelque sorte l'image même, encore une fois, des quatre composantes de la condition humaine. Et c'est en cela que, au fond, l'insulaire n'est pas enfermé dans l'île comme on peut le penser quand on vient des continents. Alors, il y a quand même une différence avec la Méditerranée. Au fond, la Méditerranée, ce n'est pas tellement les îles qui la constituent, mais plutôt l'ensemble des continents qu'elle relie, même si beaucoup de séparations et d'hostilités ont été générées par les hommes sous prétexte qu'il y avait un bout de mer entre les deux, l'Orient et l'Occident. C'est quand même la ressemblance. Donc c'est une île de convergence, la mer Méditerranée, même si les hommes s'en sont servis pour séparer. Dans la Caraïbe, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, ce sont des îles où les continents sont venus converger et ont amené, non pas la séparation, mais au contraire, l'imposition de la rencontre. Quatre continents pour édifier mon île. Quatre continents pour édifier mon île. On est très loin de l'image traditionnelle de l'insularité comme étant des groupes séparés des autres et qui sont dans une certaine communauté close et qui ont donc une identité forgée qu'on appellera la Corse, la Sardaigne. Là, non, là, je n'existe pas rien d'autre que parce que les continents ont fait en venant se condenser, comme en chimie, dans l'île qui est l'Europe, par erreur, presque en cherchant l'Inde, l'Afrique, qui a été conduite, obligée, et qui est la majorité de la population. Et puis ensuite, évidemment, avant plutôt, les Amérindiens. Nous sommes l'Amérique. Nous sommes autant l'Amérique que le continent américain. Et, bien, c'est comme s'il fallait compléter d'une manière presque théorique en disant, mais il manque l'Asie. Eh bien voilà, il y a 150 ans, l'Asie arrive. Et donc, une rue de chez... Quelqu'un disait ça tout à l'heure dans une autre réunion. Une rue de chez nous, à propos de photographie des Antilles, une rue de chez nous... C'est un endroit où, depuis longtemps, on a des gens qui viennent d'Asie, on a des gens du Moyen-Orient dans des magasins, on a des... Moi, dans mon enfance, quelqu'un du Vietnam qui avait épousé un soldat guadeloupéen et qui habitait dans la rue. Et bien évidemment, l'Europe et l'Afrique, on connaît l'histoire depuis la traite et l'esclavage. Et donc, au fond, là, l'idée de l'île comme solitude n'est évidemment pas du tout quelque chose qui est dans la Caraïbe. Mais c'est l'île comme trop-plein. Et que le sujet, ça consiste à imposer finalement au continent d'accepter leur dimension d'insularité. C'est-à-dire d'accepter une fragilité, d'accepter d'être pas grand-chose sur la Terre, quels que soient les milliers de kilomètres qui peuvent constituer la Chine ou l'Amérique ou les États-Unis. Et que l'île vient imposer au continent, l'Afrique par exemple, l'Europe, vient leur imposer de reconnaître leur dimension, au fond, de fragilité humaine. Et ramener les millions d'êtres qui peuvent constituer la Chine ou les Européens ou les Africains à la dimension de la solitude insulaire qui finalement constitue l'essentiel pour chacun de nous et qui exige ensuite évidemment de, non pas de rester enfermé dans cette solitude, mais de bricoler quelque chose à partir de ce trop-plein. Voilà, donc on est plus grand que la mer, finalement, puisqu'on a quatre continents sur le dos, et on appelle ça en plus des pays jeunes, alors qu'ils additionnent les vieillesses du monde, les vieillesses de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, et des Amérindiens sont ce qui fait mon identité, en quelque sorte. Et des vieillesses qui ne sont pas venues dans une espèce de volonté de dialogue, mais au contraire dans quelque chose qui était l'affrontement le plus sévère. Et donc, quelque part, l'identité antillaise a été forgée par les opprimés. Elle a été forgée par ceux qui étaient donc, un, les victimes, deux, les plus fragiles, trois, ceux qui n'étaient pas de là, donc qui n'avaient pas de légitimité à revendiquer originelle, donc qui n'avaient pas à chasser les autres, mais qui étaient au fond ce qu'on pourrait appeler les immigrés contraints et forcés. Et le miracle, en quelque sorte, de cette insularité, c'est qu'il y a eu conjonction entre la condition insulaire, fragile, n'étant pas de là, comme un bateau, finalement, sur la mer, de ceux qui sont contraints, forcés, venus, c'est-à-dire, en gros, ceux d'Afrique, qui ont constitué le substrat et le matériau d'une réinvention de monde, j'appelle l'invention des désirades. On a dû inventer des mondes avec des matériaux qui n'étaient absolument pas faits pour créer une humanité, mais au contraire pour la détruire. Détruire les Africains dans leur humanité, l'Europe sans son humanité pour être dans une position d'oppression, oppression des esclaves, mais aussi oppression de la terre pour la prendre et ramener sur le continent les richesses et non pas s'installer. Oppression des Amérindiens qui ont quasiment disparu. Et donc, on voit bien comment, à partir de ce, on pourrait dire, l'enfer originel, il y a eu constitution de l'île, invention de l'île, c'est-à-dire imposition que chacun, y compris l'Europe, reconnaisse dans l'architecture, dans la culture, dans les modes de vie, etc., quelque chose qui puisse créer l'île, c'est-à-dire créer les insulaires, créer des gens qui sont tous continentaux, pratiquement. Même les Amérindiens sont venus au départ du continent du Sud et ont débarqué, au sens propre, débarqué dans une île qui n'était pas plus grande qu'un bateau, en quelque sorte, et ont dû constituer à partir de là l'insularité humaine, à savoir le fait d'accepter d'être de là et d'accepter de n'être que de là, sans retour au continent natal, qui est trop souvent constitutif des oppressions et des conquêtes. Hein. Les conquêtes, c'est pour revenir, pour prendre, etc. Et c'est en cela qu'il y a un peu un miracle, c'est-à-dire que l'île, elle est grande chez nous, alors qu'elle est toute petite, hein, même par rapport à la Corse ou la Sardaigne, 1600 km² pour la Guadeloupe, 900 pour la Martinique. C'est absolument incroyable de penser ça, qu'il y a quatre continents dans si peu de terre. Mais en même temps, ça a correspondu, encore une fois, avec ce feu du volcan, avec les flots des raz-de-marée, avec les cyclones qui nous amènent les colères d'Afrique, en quelque sorte, hein, et avec le séisme qui, alors que l'île est toute petite, nous dit que l'île peut quand même disparaître. Vous voyez, c'est quand même ça. Par exemple, ma Guadeloupe, elle est coupée en deux. C'est deux îles, en plus, hein, une vieille île calcaire, ancienne, pas du tout volcanique et sans eau, la Grande Terre, et puis l'autre île, la Basse-Terre, qui est un volcan qui a surgi comme la Martinique et qui est fragilement collé avec une faille extraordinaire qui donc nous fait notre sentiment de fragilité. Notre île bouge. Et dans le livre sur l'enfance, je dis, nous, on sait que la Terre tourne parce qu'on la sent tourner de temps en temps. Alors que les grands continents, eux, de temps en temps, ils ont un cataclysme, mais ils pensent que la Terre, elle ne bouge pas et donc ils peuvent penser qu'on la possède. Et donc, à partir de cette conscience très forte d'une fragilité, l'île peut disparaître, comme l'homme que je suis peut disparaître. Il y a eu un enracinement extraordinaire qui a donné finalement des insulaires à l'île, qui a donné des enfants à l'île qui lui ressemblent, c'est-à-dire qui ont ce sentiment à la fois d'être ballottés par les éléments, mais d'être en même temps ouverts au monde entier et à ce qu'on peut appeler une dimension d'universalité, parce que partout ailleurs où l'on va, on sait que c'est de là, quelque part, que l'on vient. Donc, ce n'est pas du tout une dimension de clôture. Et c'est ce qui peut expliquer que, sur le modèle de ce que tu disais, on peut mettre l'île dans sa poche, d'autant plus qu'on va vers un cousinage qui, quelque part, rappellera à l'île d'où elle vient, qu'on soit en Afrique, qu'on soit à Madras, en Inde, bien sûr en Amérique, ou bien à Paris.
Merci. Merci, Daniel. Alors, la Corse, maintenant, ce petit continent, pour être dans le cliché, par rapport justement à ces deux géographies qui viennent d'être tracées. Comment est-ce que vous y retrouvez, Jérôme ?
Alors moi, je suis peut-être dans le cas particulier de ne pas y être né en Corse.
Justement.
Et donc d'avoir un rapport à la Corse qui s'est construit depuis le continent, et qui est, je ne sais pas moi, sous la double autorité du fantasme et de l'amour déçu constamment, puisque, voilà, moi je suis né et j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, et pendant toute mon adolescence, c'était l'endroit où je voulais revenir, parce que j'avais le sentiment que c'était un monde qui était plus grand que celui que j'avais là. Ce n'était pas simplement un sentiment, j'ai quand même l'impression qu'il y avait, il y avait quelque chose d'objectivement constatable, là-dedans. Et donc je ne m'y suis installé que j'avais 20 ans quand j'y suis retourné. Donc j'y allais très souvent, j'arrivais pas en terre inconnue, mais j'ai dû faire le saut qu'on doit faire à chaque fois qu'on passe du fantasme à la réalité. En même temps, je ne suis pas vraiment un cas très isolé, parce qu'à l'époque où j'étais, où je suis rentré, il y avait des tas de gens qui rentraient comme moi, et qui devaient apprendre à vivre là. Et être en face d'une réalité qui n'était évidemment pas celle qu'on pensait. Moi aussi j'étais sensible à ce que dit Marcello tout à l'heure au début, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à la géographie physique de l'île, qui fait qu'en même temps c'est tout petit, parce que quand on dit la Corse, c'est même pas c'est une entité de toute façon fantasmée pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai pas l'impression de parler à titre individuel, parce que ce qu'on connaît en fait, c'est son village avec les montagnes qui sont autour, et puis c'est tout. Moi, pendant jusqu'à mes 21 ans, la cité la plus au nord que j'avais atteint, c'était Ajaccio. C'était pas mon premier voyage à Corté, j'ai eu l'impression d'aller en Sibérie. Et pourtant, c'était. Il fallait en sortir. Et je découvrais des paysages que je ne connaissais pas, des manières de construire les maisons que je ne connaissais pas, des manières de parler corse que je ne comprenais pas, ou mal, etc. Et donc, c'est vrai que ça a l'air immense et infini. Hein. Et même aujourd'hui, on peut même pas. Je ne suis pas allé partout.
Si je peux me permettre de vous interrompre juste un instant, ce qui est très très intéressant, c'est que chez nos deux interlocuteurs précédents, la question de le rapport à la langue, pas la question de la langue, n'a pas été abordée, parce que c'est de l'ordre de l'évidence.
Ah mais, ben ça je peux l'expliquer en deux mots. En Corse, le rapport à la langue n'est pas du tout de l'ordre de l'évidence, parce que y a peu de gens qui maîtrisent la langue. Je pense que ce sera une langue morte sous peu, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à conquérir, et dans lequel les fantasmes identitaires jouent à plein. Moi, je me rappelle qu'avant d'oser prendre la parole en Corse en public, il s'est passé des années. Tout le monde la parle pas trop bien, et besoin de remarquer à l'autre à quel point il la parle mal. Et ça, c'est pour faire taire les gens une fois pour toutes.
Oui, c'est pas mal, c'est efficace.
Il y a pas mieux. C'est pas du tout le cas en Sardaigne, mais bon, il y a des raisons historiques. Hein. Le Corse, c'est un dialecte italique, et il n'y a pas une rupture entre un dialecte italique et l'italien standard, comme il y en a une entre le Corse et le français, où il n'y a aucune passerelle, rien. C'est deux langues complètement différentes. Mais c'est la même chose. C'est encore une histoire de fantasme, tout ça. On a vraiment affaire à une image constante. Le continent n'est jamais loin en Corse. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est pris dans une espèce de jeu de miroir, où il s'agit d'être ou de ne pas être de la même manière que nous voit l'autre, de récupérer, de se conformer ou pas à une image que quelqu'un d'autre a forgé à notre place, même quitte à en rajouter. Ça donne beaucoup de niveaux. Alors c'est très, des fois c'est pénible à vivre. Et puis, mais je trouve que c'est un matériau littéraire intéressant.
Et on le sent particulièrement dans Balto Atlantico. Je vous propose un temps de lecture maintenant. Je vous propose qu'on commence par votre texte.
Alors, pour rester dans le sujet, l'ex-île. L'annonce du départ de l'île. On est 7 enfants dans la famille. Papa, maman, grand-mère ont décidé un jour qu'on allait venir en France. Ça correspondait à un souci plutôt de quitter une certaine clôture de gens modestes pour donner des chances aux enfants de grandir et de faire des études. C'était surtout ça, les familles nombreuses modestes venaient s'installer à Paris pour qu'on puisse, parce qu'elles n'auraient pas eu l'argent pour envoyer tous les enfants les uns après les autres. Et donc, un jour, on nous annonce le départ pour la France. Et donc, l'enfant donne sa réaction. C'est le texte L'ex-île, qui est dédié aux 6 frères et sœurs, justement. L'enfance est comme une île que l'on quitte pour aborder au continent adulte. C'est ce qui finit toujours par un commencement. J'ai quitté ma Guadeloupe juste à la fin de l'enfance pour aborder à Paris le continent d'enfance. Les parents avaient décidé de sacrifier le paysage pour préparer l'avenir de nos retours adultes dans le pays. Mon adolescence a pris corps sur le bateau dans les 14 jours de la traversée, l'âge où l'on se débat entre ce qu'on ne saurait perdre et ce qu'on veut gagner. Pour l'histoire, on n'avait presque rien à perdre. Dans l'ensemble aux Antilles, on a plus confiance dans l'avenir que dans le passé. J'avais très bien appris dans les contes et légendes des Antilles et dans l'histoire locale en images que depuis 4 siècles, dans la traversée du déluge caraïbe, la mort n'avait jamais pu vaincre l'espérance, portée à bras d'hommes et de femmes griffant des descendants sur les arbres volés au paradis. L'ex-île est à l'origine, renaissante ex nihilo, à condition d'emporter toujours sa désirade pour l'inventaire des décombres, dans la tourmente des dérives ou la puissance des dérades. À l'exemple de la nuit antillaise, qui, chaque soir, au crépuscule de nos cacophonies, bricole fidèlement pour les étoiles, les îles du ciel, des scintillements d'harmonie. C'est de notre premier étage du bourg que nous appréhendions le décor de notre monde d'un seul regard, de l'horizon vertical du volcan jusqu'au débouché de la mer Caraïbe au fond de la ruelle, mais à la distance de la fenêtre et du balcon, sans toujours en parcourir à pied le chemin. Et pour les personnages, le monde montait plus jusqu'à nous que nous ne descendions vers lui. Pour la géographie, j'étais assez grand pour savoir qu'on ne saurait déménager notre carême et notre hivernage chez les marchands des 4 saisons. La soufrière, bien sûr, allait rester sur place, sans danger d'oubli de sa part ou de la mienne. Je ne souhaitais rien charrier de notre lopin de terre précieuse qu'elle avait érigé hors des gouffres. À défaut de son feu vif, j'avais seulement prévu d'emporter ma petite boîte d'allumettes remplie de sa cendre fertile, ainsi que la pierre de soufre toujours odorante rapportée de ma première excursion à sa rencontre. J'espérais seulement qu'elle attendrait mon retour pour sa prochaine éruption. Aucun arbre n'ayant fleuri dans notre premier étage à hauteur du volcan, la question ne se posait pas d'en transplanter dans le petit appartement au 3e étage qui nous attendait à Paris avec la promesse des parfums exotiques de poire et de pomme France. Donc mangue, orange, coco, corossol, pomme cannelle, litchi, citerre, il allait falloir bien imprimer dans les yeux l'image de leur dégustation sur les chemins d'école ou de vacances, leur jus sucré dégoulinant sur les lèvres et les chemises, ces fruits de liberté et de jouissance de nos arbres trop fiers pour être domestiqués, enfants de nos pieds bois plus aptes à délivrer nos soifs que les chênes, les baobabs et les banyans implantés dans les 3 continents de nos déracinements. Les insulaires n'emportent pas d'eau, comme les nomades ne s'encombrent pas de sable. Donc on confiera l'île à la mer Caraïbe pour résister aux cyclones et aux raz-de-marée de l'océan. Aller à Paris, c'est en réalité comme y revenir pour la première fois. À la rencontre des leçons d'école, des livres de plaisir, des monuments qui décoraient en carte postale les cases de par chez nous. Les parents ayant décidé d'abandonner tous nos jouets, mais d'emporter tous les livres, cela revenait à ramener nos lectures dans leur décor premier de là-bas, en conservant précieusement les rares romans qui nous parlaient d'ici, comme Louis Casnègre, Bugjargal, Gouverneur de la Rosée, plus quelques petits recueils de précieuses poésies. Les réalités à venir de Paris, les duretés, les noirceurs devinées, n'allaient pas empêcher de rêver aux mansardes des poètes et des amoureux, aux rues rebelles des misérables, aux 400 coups des gavroches, aux mioches orphelins sans étrennes, aux alcôves des mousquetaires, à la chambre du père Goriot, au salon d'intrigue de Monte-Cristo. Retrouver aussi l'hiver, avec sa cheminée qui à Noël ne nous ferait plus défaut, avec la neige sans les dangers du froid, car notre mère, avant d'emballer sa machine Singer, avait utilisé ses talents de couturière à faire pour chacun un long manteau très chaud, gris France, encore trop large pour tenir compte des tailles grandies dans les 6 mois qui allaient nous séparer de notre premier hiver. La berceuse en canage de la grand-mère fut le seul meuble du voyage. Équilibre créole précaire et délicat d'un fauteuil qui n'a besoin que d'un seul point du sol pour bercer la sérénité. Avec, pour recouvrir les lits et les divans, le foisonnement géométrique et la chaleur colorée des tissus de madras. Tout le patrimoine des beaux meubles massifs hérités resta en dépôt dans un garage voisin et fut entièrement détruit par un cyclone quelques années plus tard. La veille du grand départ pour rejoindre le paquebot au port de Pointe-à-Pitre. Je demandai à ma mère, qui faisait ses dernières courses d'adieu à Basse-Terre, de m'acheter un petit cahier, un répertoire alphabétique à la librairie Châtelard. Le soir, j'écrivis sur la couverture « Cahier des oublis », avec l'intention qu'il me serve à noter tout ce qui commencerait à s'estomper d'essentiel de ma Guadeloupe en encore trop petit, surtout avec la concurrence de ce prochain continent si ancien et si spacieux. Et je notais sur la première page ce dernier vers d'une belle poésie apprise en sixième que j'avais retenue par cœur, sans trop savoir encore s'il devait plus s'appliquer à l'avenir de mon île d'enfance ou de mon enfance d'île. Si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. Puis j'allais directement à la dernière page et je recopiais ce petit poème que je venais d'écrire pour prévenir la fin de mon futur exode. J'aime sentir les oublis surgir du souvenir, la mer éblouir le soleil avec l'écume, la sève du volcan ancrer mon porte-plume pour que d'ex-île un jour je puisse bien revenir.
Ce récit du départ et de l'inscription en soi, justement. Je propose qu'on lise un texte de Marcello.
On va le lire en deux fois. Et maintenant, accorde-moi les mots. La nuit du massacre, la pleine lune, grasse et moite, s'était tenue juchée des heures durant sur le dos des montagnes. Quelques nuages effilochés sur son front faisaient l'effet de cheveux ébouriffés. La lune était restée ainsi, en train de voir l'horizon découpé comme le bord d'une coquille d'œuf cassée en deux, paresseuse d'une paresse comme la mort, comme si elle était dans son premier sommeil. Puis, à un certain moment, elle s'était soulevée, indolente, soufflant contre la terre. Une lune antique, arquant le dos pour s'étirer dans le silence et commencer son tour en retard, s'était grande ouverte au regard des insomniaques. Elle avait alors commencé à blanchir la campagne en chatouillant les poils phosphorescents des bêtes et en faisant scintiller les brins d'herbe comme des rasoirs. Elle avait traversé les vignes en incisant sur la plaque du ciel un Golgotha de plantes crucifiées. Puis, elle était passée par le village, comme si elle y arrivait par hasard, en voyageuse distraite, pour donner une lumière fébrile au rouge des toits. Et elle pénétra dans le mortier des pavés pour en faire de l'argent précieux et choisit des murs immaculés pour qu'ils le réfléchissent. Elle illumina les étreintes, oh, comme elle le fit, licite et illicite, blessant par de blancs coups de cravache la peau des amants, se glissant dans les fentes des portes fermées, s'insinuant entre les rideaux qui se frôlaient, giclant des claires-voies de volets rapprochés. Plus loin, là où le terrain est toujours gras de vers de terre, elle fit briller les tombes de marbre comme des miroirs ardents et abattit sur le sol les ombres très noires des cyprès au garde-à-vous le long des allées pour les faire couler sur les trottoirs. Ah, une lune maudite qui chuchotait des malheurs la nuit du massacre.
Et ora dammi le parole. La notte dell'eccidio, la luna piena, grassa e sudata, se n'era stata appollaiata per ore sulla schiena delle montagne. Pochi fili di nubi facevano l'effetto di capelli scomposti sulla sua fronte. Se n'era stata così, la luna, versi l'orizzonte frastagliato, come il bordo d'un guscio d'uovo spaccato in due, pigra, di una pigrizia quasi morte, quasi fosse al primo sonno. Poi a un certo punto si era sollevata, indolente, alitando contro la terra, una luna antica, che arcuata la schiena per sgranchirsi nel silenzio e cominciare con ritardo il suo turno, si era spalancata allo sguardo degli insonni. Così aveva iniziato a scialbare la campagna, solleticando il pelo fosforescente delle bestie e facendo scintillare le foglie d'erba come rasoi. Aveva attraversato le vigne, incidendo contro la lastra del cielo un nero Golgota di piante crocefisse. Poi era passata in paese, come giungendoci per caso, viaggiatrice distratta, per rendere febbrili di luce il rosso dei tetti. E penetrò nella malta dei selciati per farla preziosa d'argento e scelse muri immacolati perché la riflettessero, illuminò gli amplessi. No, se lo fece. Quelli leciti e quelli illeciti, ferendo con scudisciate di luce la pelle degli amanti, infilandosi attraverso le fessure delle porte chiuse, insinuandosi fra le tende che si sfioravano, schizzando dagli sfiatatoi delle imposte accostate. Più in là, dove il terreno sempre è grasso di vermi, fece brillare le tombe di marmo come specchi ustori e abbatté al suolo nerissime ombre di cipressi acuminati sull'attenti ai bordi dei viali per farle colare sui marciapiedi. Una luna maledetta che sussurrava sventure la notte dell'eccidio.
Il y a eu un temps, pas si lointain d'ailleurs, où cette même lune, lancée dans la nuit comme au centre d'une scène de théâtre, avait exhibé un regard virginal. Et il y a eu un temps où elle s'était à tel point rapprochée de la terre qu'elle semblait une unique lumière et que la regarder donnait des vertiges et une sensation étrange d'angoisse et de langueur, de peur et de jouissance, un plaisir très semblable à une douleur. Un dieu avant Dieu avait dansé, plongé dans cette pâleur, quand on croyait que le battement de ses pieds réveillerait la matière inerte dans la nuit des nuits, quand tout était à faire. Quand on pensait encore qu'une danse suffirait à réveiller le corps comateux de la terre, quand on pensait que danser suffirait à lui offrir des gemmes merveilleuses pour l'orner et des corps mouvants pour l'habiter, quand on priait la foudre et la secousse et la laine maléfique, et que chaque geste devait être parfait, comme un miroir du cosmos, et que chaque mot devait avoir un son et un ton pour ne pas offenser la bête méfiante, et que chaque pas de danse devait être une image de ce dieu qui dansait, en sorte que le bêlement du bélier et le mugissement du taureau et le crépitement de la flamme et le cours de l'eau puissent chanter une harmonie qui était, oui, musique, mais également une carte des astres, un récit du firmament, une imitation du ciel sur la terre. C'est pourquoi, pendant une nuit pareille à celle-ci, les premiers d'entre nous se placèrent en cercle tournoyant pour mimer le cours tourbillonnant du temps et des planètes. Les premiers d'entre nous s'embrassèrent pour accorder un rythme et établir les rôles. Toi le bélier, toi le taureau, toi le feu, toi l'eau. Il y avait de quoi se sentir divin, il y avait de quoi se sentir tellement proche du sens premier des choses qu'on pouvait penser ne pas encore être né. Il y avait de quoi se sentir immortel. Pendant une nuit pareille à celle du massacre, toutes les prières avaient obtenu une réponse. La matière s'était éveillée et, tel un chien mouillé qui se secoue, elle avait lancé dans le ciel un nombre extraordinaire de tisons ardents. Les premiers d'entre nous avaient nagé pour rejoindre la surface, ils s'étaient traînés au sec par-delà les palus et avaient obtenu d'être entendus. Aussi, ils s'étaient dressés, encore titubants comme des poulains. Ils avaient levé leurs bras pour imiter les branches des arbres et hurlé pour mettre à l'épreuve leurs poumons. La conscience était arrivée comme une gifle en plein visage. Parce qu'il est difficile de donner un sens à tant de souffrances millénaires, et les mots manquent souvent, mais il reste au-dedans une mémoire qui est vide. Ce fut ainsi que cela se passa. C'est ainsi du moins qu'on le raconte. Et on dit que l'orgueil poussa les premiers d'entre nous à se multiplier, amoureux de leur image, et les poussa à mourir parce que cela signifiait revenir au point exact d'où tout avait commencé, dans la gloire de l'argile, dans le simulacre inviolable de la mer, dans le centre des centres. Éblouis par la lumière silencieuse, ils quittèrent cette terre comme s'ils dansaient, mais pour recommencer, car la lune était obstinée et le soleil aussi, tout comme était obstiné l'espoir de perpétuer ce hurlement et cette conscience. On dit que cela se passa la nuit, une nuit comme celle du massacre, quand l'orgueil, dans le bourdon du temps, s'était réduit à une petite flamme très pâle, agonisante. Parce que la planète de l'amour-propre était devenue satellite, elle était devenue un éclat tourbillonnant aux confins du monde, parce que le fil de la mémoire s'était embrouillé en effaçant tout parcours possible dans le labyrinthe de soi-même. Nus, les derniers d'entre nous erraient sur une terre dortoir en protégeant leur visage de l'éblouissement, car la nuit du massacre, c'était la pleine lune et une étrange, angoissante euphorie, pareille à une douleur.
Intanto se vuol leggere Jérôme, voilà. Così io nel frattempo cerco, perché mi si è chiuso il programma.
Parce que comme ça moi j'ai le temps de chercher.
Poi io leggo in italiano, va? Scusate.
E après je vais
changer. Bon, j'espère que ça va pas être trop long, autant que je suis là. piètre lecteur, mais vous allez vous en rendre compte tout de suite. Bien sûr, les choses tournent mal. Pourtant, tu serais parti, et quand l'étreinte du monde serait devenue trop puissante, tu serais rentré chez toi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, car les choses tournent mal à leur manière mystérieuse et cruelle de choses, et font se briser contre elles toutes les illusions de lucidité. Tu es parti, le monde ne t'a pas étreint, et quand tu es rentré, il n'y avait plus de chez toi. Il y avait tes parents, ta maison et ton village, et ce n'était miraculeusement plus chez toi. Ta mère t'a embrassé avec son amour silencieux, et puis ton père, et tu as retrouvé leur odeur. L'odeur qui avait été celle de tes grands-parents, de tous tes ancêtres sans visage, et dont tu avais si peur qu'elle devienne un jour la tienne. Cette odeur humide et douceâtre de savon de Marseille, de feu de bois, de transpiration froide, d'eau de Cologne et de chair fatiguée que les douches quotidiennes et les frottements du gant de crin ne parvenaient même plus à atténuer, et qui imprégnait toute la maison depuis si longtemps. L'odeur de la vieillesse et de la mort, de tout ce qui est joué d'avance. Mais elle ne te faisait plus peur parce que ce n'était plus chez toi. Et le jour où ton tour viendrait, après avoir rôdé autour de toi, elle finirait par s'éteindre d'elle-même, parce qu'elle ne t'aurait pas reconnu et qu'elle n'aurait trouvé personne pour accomplir la loi de sa transmission. Quand ta mère t'a demandé comment tu allais en caressant ton bras blessé, tu as doucement écarté sa main, et pour la première fois depuis si longtemps, tu as pu la serrer contre toi et la rassurer, et respirer ses cheveux sans frémir de dégoût, comme si ce n'était plus ta mère, mais simplement une vieille femme étrangère qui méritait ta compassion. Maintenant, tu marches dans le village, et tu te rappelles combien tu as été désespéré de le trouver si semblable à lui-même la dernière fois que tu es revenu. Et il est encore resté si étonnamment semblable. Mais ce n'est plus chez toi. Tu passes devant la maison de Jandot, et le père de Jandot est sur la terrasse malgré le froid. Il fume, il regarde par-dessus la vallée brumeuse, le soleil se coucher sur la mer, et il ne tourne pas la tête vers toi. Tu penses qu'il ne t'a pas vu, et tu t'approches tout près de lui en appelant doucement « Monsieur de Peretti, Monsieur de Peretti ». Mais il ne tourne pas la tête, et il dit en regardant droit devant lui « Je ne t'en veux pas, je ne te souhaite pas de mal. Mon fils n'en a toujours fait qu'à sa tête. C'était comme ça depuis qu'il est tout petit. Ce n'est la faute de personne. Mais maintenant, je préfère penser que toi aussi, tu es mort avec lui. Il est juste que tu le saches, et c'est pour ça que je te parle maintenant. Mais je ne te parlerai plus jamais. Et je ne veux rien entendre de toi, et je ne veux plus te voir. » Pour respecter son souhait, tu t'éloignes sans bruit comme s'éloignerait un mort, et tu continues à marcher dans le crépuscule. Tu entends le tintement d'une clochette qui s'approche, et un chien de sanglier pose sur toi ses grands yeux apeurés. Il remue la queue et courbe les chines en le croisant. Tu marches longtemps sans voir personne d'autre. Tu t'assois sur un muret de pierre. Il fait nuit. Tu regardes les maisons massives, les volets clos sur des chambres glacées, les rares lumières allumées à des fenêtres sans joie. La clochette tinte timidement dans la nuit et le chien réapparaît. Il tourne en rond un moment, en clignant des yeux avec méfiance, et puis il s'approche en tremblant parce qu'il a peur d'être battu. Quand tu le caresses, il pousse un gémissement aigu et il se couche devant toi et te lèche la main. Il y a longtemps, souviens-toi, quand c'était encore chez toi, tu te plaignais de ce que le village était un désert. Mais tu avais tort, un désert ce n'est pas ça. Tu sais, il y eut une époque où les hommes partaient dans le désert à la recherche de Dieu. Ils y mangeaient des racines amères qui les faisaient souffrir de la soif en échange de visions dérisoires, et ils parlaient à haute voix devant les dunes de sable, et tentaient d'apprivoiser les scorpions. Et ils pleuraient de solitude parce qu'aucun démon ne venait les tenter pour éprouver leur amour et leur foi inutile. Et ils ne trouvaient pas Dieu. Ils ne trouvaient que l'abéance de leur âme, et Dieu était l'abéance de leur âme. Peut-être ai-je été l'un d'eux, je ne m'en souviens plus, mais je sais ce qu'est un désert, et ce n'est pas ça. Le silence et l'ennui ne suffisent pas. Personne ne viendrait chercher Dieu ici, dans ce cimetière. Et un jour, tu l'as compris. Tu étais accablé de chaleur à l'entrée de la zone verte, au checkpoint, en sueur sous ton gilet pare-balles, avec Jandot et le Serbe, quelques semaines avant que n'explose la voiture de votre supplice, peut-être à l'endroit même où Ibn Mansour el-Halaj, éperdu d'amour sur sa croix, les mains et les pieds coupés, avait fini par trouver Dieu. Et tu ne t'intéressais pas au sang ancien des martyrs. Tu attendais les enfants. Ils venaient depuis quelques jours, ils vous regardaient, ils vous lançaient des petits cailloux et des insultes en arabe qui ne faisaient rien. La veille, tu t'étais procuré des chewing-gums. Quand les enfants sont arrivés, tu les leur as montrés. Tu as attendu un moment et tu leur as fait signe de venir. D'abord, ils n'ont pas bougé, mais finalement, l'un d'eux s'est approché. C'était un petit garçon bouclé, fin et plein de grâce, avec des yeux clairs. Il avait peut-être 8 ou 9 ans. Tu lui as tendu un chewing-gum et il l'a mis dans sa bouche et s'est mis à mâcher. Tu lui as demandé son nom, tu as répété plusieurs fois « Esmak, Esmak » et il a mâché son chewing-gum en riant. Tu lui en as tendu un deuxième et puis un troisième et l'homme est arrivé. Il a mis une gifle à l'enfant, il a forcé à ouvrir la bouche et à cracher le chewing-gum et il a jeté les deux autres par terre. Il a forcé l'enfant à le regarder, il a crié et l'a encore giflé. Tu as pensé que c'était son père et qu'il ne fallait rien dire parce que ça pourrait l'énerver encore plus de devoir prendre la défense de son fils. Jandot a fait un pas en avant, mais tu lui as dit « Reste où tu es, ferme ta gueule pour une fois, ferme-la ». L'homme a attrapé le petit garçon par le col et s'est éloigné du checkpoint en le forçant à marcher devant lui. Et il l'a poussé, et le petit garçon a fait un bond en avant, et il a failli perdre l'équilibre. Et l'homme l'a poussé encore plus fort. Le petit garçon a trébuché, il a battu l'air de ses bras, mais il est resté debout. Et l'homme l'a poussé une dernière fois, et le petit garçon est tombé à plat ventre sur le trottoir poussiéreux. Il était si léger que sa chute n'a fait aucun bruit. L'homme l'a regardé un instant, et à ce moment-là, tu en es sûr, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait faire, pas la moindre. Mais il a vu les jambes qui dépassaient du rebord du trottoir, et ce fut comme si tu avais été présent dans son propre esprit, rappelle-toi. Comme si tu avais eu le temps, sans pouvoir rien y faire, de voir ses idées germer et croître et devenir des actes, avant même qu'il ait conscience d'y avoir seulement pensé. Et tu serais prêt à jurer que quand il a abattu son talon d'un coup sec, en pesant de tout son poids sur la petite jambe, et que tu as entendu le craquement de l'os et le hurlement de l'enfant, tu l'avais déjà mis en joue. L'homme a levé les yeux vers ton fusil braqué, et il t'a regardé bien en face avec le regard hideux de la vérité. Et à nouveau, il a levé son talon et brisé l'autre jambe. Jandot criait « Tue-moi cette saloperie, cet enculé, tue-le !» Et le cerf criait « Ne déconne pas, ne tire pas !» Et tu restais immobile, envoûté par le regard de cet homme, et tu savais qu'il ne tirerait pas. Il ne te défiait pas, il n'avait pas peur de la mort, il n'avait pas peur de toi. Il était si parfaitement rempli de haine et d'amour qu'il n'y avait plus de place en lui pour quoi que ce soit d'autre. Et il te regardait depuis un monde perdu, au-delà du châtiment et du jugement, où ton désir de le punir ne pourrait jamais l'atteindre. Il ne t'a pas regardé longtemps, il s'est accroupi près de l'enfant, comme si toi et ton fusil n'aviez jamais existé. Il lui a caressé les cheveux et l'a pris dans ses bras, il lui a posé un baiser sur le front et l'a amené loin de toi, en murmurant peut-être à son oreille des mots de consolation. Le soir, au bar de l'hôtel, tu as dit à Conti que tu ne pouvais toujours pas appeler autrement que mon adjudant, bien que vous serviez désormais dans une armée sans grade et sans drapeau. Ça va être un désastre ici, mon adjudant, une défaite épouvantable. Nous allons nous faire massacrer, il n'y aura rien à faire. Il a fait apporter une bouteille de whisky et un seul verre. Il t'a servi à boire et il a dit « Certains pensent qu'ils sont venus pour l'argent. D'autres doivent inventer chaque jour la raison pour laquelle ils sont ici, mais toi et moi, nous savons la vérité depuis le début. Nous n'avons pas besoin de nous raconter des conneries. Nous ne mentons pas. Nous sommes venus pour la guerre, la seule raison valable. La guerre, ces histoires de défaites et de victoires ne nous intéressent pas. Laisse ça aux Arabes, laisse ça aux Américains. Tu vaux mieux que ça. Et tu as acquiescé, mais tu t'es dit qu'il commençait à t'emmerder avec sa philosophie nazie. Tu as eu peur de finir par le mépriser pour les mêmes raisons qu'il avait toujours rendu admirable à tes yeux, et tu ignorais que tu n'en aurais pas le temps. Tu as acquiescé et tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit « Vous aussi, vous mentez, mon adjudant. » La défaite vous intéresse beaucoup plus que les Arabes et les Américains. La défaite est facile, c'est pour ça que vous aimez la guerre. Et vous trouvez la victoire vulgaire, c'est votre genre de noblesse. Vous avez toujours regretté d'être né trop tard pour sauter sur Dien Bien Phu ou pour vous faire massacrer aux Thermopyles. Ou pour qu'un soudard anglais soulève votre aume de chevalier du bout de sa pique et vous saigne comme un porc sur le champ d'Azincourt. Et maintenant, vous êtes heureux d'être ici. Vous êtes heureux que l'histoire vous donne enfin l'occasion de prendre la branlée dont vous avez toujours rêvé. Tu es resté silencieux et tu as continué à acquiescer à tout ce qu'il disait jusqu'à ce qu'il te laisse tout seul avec la bouteille de whisky. Avant que l'ivresse ne défigure tes nostalgies, il t'a semblé que rien ne te ferait plus plaisir que de retrouver ce village que tu avais si souvent voulu fuir. Tu as voulu rentrer chez toi, retrouver quelque chose que tu avais peut-être déjà perdu à ce moment-là, perdu pour toujours. Et tu as continué à boire, et les choses furent soudain terriblement claires. Tu as mesuré l'ampleur vertigineuse de la défaite à venir, et ton impuissance. Et tu t'es dit que si tu faisais preuve d'un minimum de courage et de compassion, tu devrais effectivement rentrer chez toi, sans faire de bruit, quand tout le monde dormirait, et mettre une balle dans la nuque de ta mère, et une balle dans la nuque de ton père, et passer de maison en maison, et t'armer de courage et d'amour pour tuer les vieillards, et égorger les nourrissons dans leur berceau, et leurs parents dans la tiédeur du lit conjugal, et tous les enfants, un par un, et transpercer le cœur battant des jeunes filles avec leurs rêves imbéciles. Et tu pouvais t'imaginer debout, prophète et rédempteur, les bras écartés dans la nuit, couvert de sang au milieu des maisons que tu avais transformées en caveaux, attendant que le soleil éclaire ton œuvre et brille pour te remercier d'avoir enfin permis à ton village d'accomplir sa vocation de cimetière. Mais tu n'as plus ni courage, ni compassion. Tu as abandonné le monde à l'ennui de sa mort lente. Le soleil ne brille pas, et tu es seul dans la nuit d'hiver, dans ce cimetière que tu as longtemps pris pour un désert, avec un chien à tes pieds qui te suit quand tu te lèves pour rentrer dormir.
Ci siamo, finiamo. C'è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui questa stessa luna lanciata nella notte come al centro d'una scena teatrale, si era esibita con uno sguardo verginale. E c'è stato un tempo in cui ella si era a tal punto avvicinata alla terra che sembrava un'unica luce, e chi la guardava aveva le vertigini, una sensazione strana d'angoscia e di languore, un piacere molto simile a un dolore. Un dio prima di un dio aveva danzato, lanciato in questa luna pallida, quando si credeva che battere i piedi avrebbe risvegliato la materia inerte nella notte delle notti, quando tutto era da fare, quando si pensava ancora che una danza sarebbe stata sufficiente a risvegliare il corpo comatoso della terra, quando si pensava che danzare sarebbe stato sufficiente per offrire gemme meravigliose, per ornarlo e dare corpi semoventi per abitarlo. Quando si pregava la saetta e la scossa e l'alito malefico. E ogni gesto doveva essere perfetto, come lo specchio del cosmo. E ogni parola doveva avere un suono e un tono per non offendere la bestia diffidente. E ogni passo di danza doveva essere un'immagine di colui che l'aveva danzata. Così che il belato del capo e il mugito del toro, e il crepitio della fiamma, e il corso dell'acqua potessero cantare un'armonia che era sì musica, ma ugualmente una carta degli astri, un'imitazione del firmamento, un'imitazione del cielo sulla terra. È per questo che durante una notte come questa, i primi di noi si misero in cerchio e cominciarono a drillare, per mimare il corso turbinoso del tempo e dei pianeti. I primi di noi si abbracciarono per accordare un ritmo e stabilire dei ruoli. Tu il capro, tu il toro, tu il fuoco, tu l'acqua. C'era da sentirsi divini. C'era da sentirsi talmente vicini al senso primo delle cose che si poteva pensare di non essere ancora nati. C'era da sentirsi immortali. Durante una notte come questa, come quella del massacro, adesso riprendo, scusate, arrivo qua, è stato un po' di... In una notte simile a quella dell'eccidio, tutte le preghiere avevano avuto risposta. La materia si era svegliata e aveva vomitato lava incandescente, poi, come un cane bagnato che si scuotesse, aveva scagliato nel cielo un numero strepitoso di tizzoni ardenti, ed era rabbrividita increspandosi di montagne, e aveva pianto oceani. Generato dal battito, l'organismo primigenio aveva nuotato per raggiungere la superficie, aveva respirato l'alido gelido dei venti stratosferici, aveva reclamato Monconi per arrancare verso l'asciutto, oltre le paludi, e ottenuto udienza. Così si era alzato in piedi, ancora traballante come un puledro, intirizzito nel liquido amniotico, aveva sollevato le braccia per imitare i rami degli alberi e urlato per saggiare i polmoni. La coscienza gli era giunta come uno schiaffo in pieno viso, perché è arduo dare un senso a tanta millenaria sofferenza, e le parole spesso mancano, ma resta dentro una memoria che è vuoto, il vuoto di stabilire il momento preciso in cui quell'organismo informe aveva capito di essere il centro, e che al centro di lui abitava un altro centro e un altro ancora fino alla fine. Fu così che andò, così perlomeno lo raccontano, e dicono che l'orgoglio spinse i primi di noi a moltiplicarsi, innamorati della propria immagine, e li spinse a morire, perché questo significava ritornare al punto esatto in cui tutto era cominciato, nella gloria della pietra fittile, nel simulacro inviolabile della madre, nel centro dei centri. Abbagliati dalla luce silenziosa, lasciarono questa terra proprio come se danzassero, ma per ricominciare, che la luna era ostinata e il sole pure, e ostinata era la speranza di perpetuare quell'urlo, quella coscienza. Dicono che avvenne di notte, una notte come quella dell'eccidio, quando l'orgoglio nel bordone del tempo si era ridotto a una fiammella pallidissima, agonizzante, perché il pianeta dell'amor proprio si era fatto satellite, era diventato una scheggia turbinante al confine estremo delle galassie, perché il filo della memoria si era aggrovigliato rendendo impercorribile il labirinto di se stessi. Nudi, nudi, gli ultimi di noi stavano vagando nella terra dormitorio, schermandosi il volto contro il bagliore, perché la notte dell'eccidio c'era la luna piena e una strana, angosciante euforia, simile a un dolore.
Merci pour ces trois textes qui, a priori, ont l'air complètement différents, voire opposés. Mais je pense qu'il y a une mise en perspective très, 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 très radicale qui doit être réalisée. C'est un peu l'effet du hasard, et en même temps, ce n'est pas complètement l'effet du hasard. Mais dans ces trois textes, on a au moins un moment de célébration, de quelque chose qui a à voir avec le sacré, d'une part. Que ce soit celle de la nuit du massacre, que ce soit le départ et la façon non pas désespérée mais très très active justement de retenir par les mots quelque chose qui s'échappe, que ce soit le désir effréné de retourner au village mais pour y commettre ce qui doit y être commis pour le personnage. Dans les trois textes, on a trois figures qui ont à voir avec l'enfance, ou en tout cas avec des souvenirs d'enfance, y compris dans la question de la nuit du massacre. Ça fait référence dans le roman à une scène extrêmement, extrêmement précise, hein, une inscription très très forte dans la conscience de l'enfant. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur c'est le dernier temps, sur ce point-là, qui effectivement éclaire aussi tout ce qui a été dit, je pense, depuis le début, le fait que l'île, elle est à la fois portative, elle est à la fois la métaphore de la condition humaine et de l'humanité, mais jusque dans ses aspects les plus effrénés, les plus radicaux, les plus difficiles. Le personnage de Samuel, on le suit depuis son enfance. Et tout se passe comme si on y revenait sans arrêt. Si chacun des chapitres, à un moment, il me semble, chacun des chapitres renvoie à une scène ou à un moment d'une scène qui se trouve dans le premier chapitre.
Si. Sì. Oui. Sì, io ho tentato... Ho tentato di fare un'operazione che fosse tradizionale e letteraria insieme.
J'ai essayé de réaliser une opération traditionnelle et littéraire en même temps.
Cioè di fare di provare a mettere sulla carta.
C'est-à-dire d'essayer de mettre sur papier.
Quella specie di miracolo.
Cette espèce de miracle.
Che è stato per me imparare a scrivere attraverso l'ascolto.
Che per me ha été l'apprentissage de l'écriture par l'écoute.
Io fino ai 6 anni, cioè alle scuole elementari, avevo bisogno solo della mia lingua madre.
Jusqu'à 6 ans, en réalité, jusqu'au début de l'école primaire, je n'avais besoin que de ma langue maternelle.
E quindi io parlavo solo il sardo, conoscevo l'italiano, ma.
Et donc je ne parlais que la langue sarde. Je connaissais l'italien, enfin je ne parlais pas.
Poi sono entrato alle scuole elementari e il maestro mi ha, come dire, con le buone e anche con le cattive.
J'ai commencé l'école primaire et c'est là où le maître, avec des manières douces et moins douces, m'a quand même appris l'italien.
Ecco, dal punto di vista letterario è successa un po' la stessa cosa.
Et sous le point de vue littéraire, c'était plus ou moins la même chose.
Avevo già imparato tutto quello che avrei scritto.
J'avais déjà appris tout ce que j'allais écrire.
Da bambino.
Tout petit.
Ho passato l'infanzia a costruire il materiale.
Et j'ai passé mon enfance à construire le matériel.
E poi ho passato la maturità invece a cercare di raccontarlo.
Et ensuite, mûr, j'ai essayé de le raconter.
E allora ho pensato che la strada migliore per riunire queste due.
Et j'ai considéré que le meilleur parcours ou chemin pour réunir
questi due percorsi,
ces deux parcours,
era quello di provare ad essere classici.
C'était vraiment essayer d'être classique.
Cioè di essere di essere permanenti.
C'est-à-dire d'être permanent.
E cioè fare, cioè azzardare categorie pesanti, categorie, strutture permanenti.
Oser des catégories lourdes, des structures permanentes.
E siccome, come dire, l'Occidente da qualche migliaio di anni.
Et car l'Occident, depuis plusieurs milliers d'années.
Si sta ostinatamente raccontando le stesse storie.
S'entête à raconter toujours les mêmes histoires.
Forse il, come dire, forse la chiave era di sorprendere con quella storia che tutti conosciamo.
La clé pouvait être probablement justement surprendre en racontant une histoire que tout le monde connaît.
Il signor C vuol tornare a casa e non ce la fa.
Monsieur X veut rentrer chez lui et il ne peut pas.
A e B vorrebbero sposarsi e non ce la fanno.
Les individus A et B voudraient se marier et ils ne peuvent pas.
Non c'è molto altro che noi ci siamo raccontati, di fatto.
Et il n'y a pas grand chose de plus qu'on s'est raconté en réalité.
Anzi, probablemente, ancora riassumendo, ci siamo raccontati una sola cosa.
Et si l'on veut résumer, on s'est raconté qu'une seule chose.
E cioè la difficoltà di ottenere un risultato.
La difficulté d'obtenir un résultat.
In letteratura la felicità è assolutamente poco interessante.
Dans la littérature, le bonheur est vraiment très peu intéressant.
No, ci interessa il. La fatica di raggiungere la felicità.
Ce qui nous intéresse, c'est cette fatigue, cette lutte pour atteindre le bonheur.
E infatti i grandi classici ci insegnano che appena arriva la felicità il libro finisce.
Et les grands classiques nous apprennent justement que dès qu'on atteint la félicité, le bonheur, c'est vrai que le livre est terminé.
E quindi a noi non interessa la felicità dei nostri protagonisti, ci interessa il
percorso. Il protagonista non nous intéresse pas, non.
E quindi io mi sono detto, perché non raccontare una storia che io conosco da sempre?
Alors je me suis posé la question, pourquoi ne pas raconter une histoire que je connais depuis toujours?
Samuele Stocchino è come dire, era una storia della mia infanzia.
Samuele Stocchino, c'est une histoire de mon enfance.
Mia nonna, quando voleva che io facessi qualcosa, mi minacciava e diceva: adesso arriva Stocchino.
Ma grand-mère, quand elle voulait que je fasse quelque chose, elle me menaçait en disant: tu vas voir que Samuele Stocchino va arriver.
E quindi ho detto: forse se io metto questa mia piccola storia, che tutti conoscono, dentro il grande circuito delle storie.
Et je considérais que si je plaçais cette petite histoire à moi dans ce grand circuit que tout le monde connaît,
forse potevo rischiare persino di renderla.
Je pouvais même courir le risque
universale.
De la rendre universelle.
E quindi ho quindi usato proprio francamente, per esempio, la struttura della tragedia greca.
Et j'ai vraiment utilisé franchement la structure de la tragédie grecque.
Quindi con la partizione, con le cinque parti, col coro, con
avec le cinque par avec le cœur.
Perché quella era la struttura più comoda per ottenere questo risultato.
Parce que c'était la structure la plus confortable pour atteindre ce résultat.
Senza tradire la storia come io la conoscevo.
Sans trahir l'histoire telle que je la connaissais.
Ecco, questa forma, diciamo, di realpolitik, di realismo pratico.
Cette forme de réalisme pratique.
È una connotazione molto insulare.
C'est quelque chose de vraiment très propre de l'île, de l'insularité.
Perché l'errore che si fa spesso è quello di considerare l'isola alla stregua di una nazione.
Nous commettons trop souvent l'erreur de considérer l'île comme une nation.
O una regione.
o in région.
E invece no, gli isolani sentono se stessi come membri di un continente.
Les insulaires se considèrent eux-mêmes en tant que membres d'un continent.
Ed è per questo che, per esempio, i progetti di unità.
C'est pour cela que les projets d'unité
nelle isole non funzionano.
Ne marche pas dans les îles.
Anzi, quanto più sono piccole, tanto più la separazione e la separatezza è evidente.
Et plus l'île est petite, plus cette séparation est évidente.
Perché nelle isole grandi le differenze saranno tra città che distano 30 km l'una dall'altra.
Dans les grandes îles, les différences peuvent exister entre ces villes qui sont éloignées de 30 ou 50 km l'une de l'autre.
Ma quanto più diventa piccola l'isola, tanto più diventano piccole le distanze delle differenze.
Et l'île étant plus petite, c'est sûr que les distances des différences diminuiscono.
E questo le rende esplosive. Cioè,
e c'è la ragione per la quale diventa esplosive.
Ecco, la storia di Stocchino io ho cercato di raccontarla attraverso questa, come dire, questa connotazione della differenza.
E j'ai essayé de raconter l'histoire de Stocchino justement par cette notion de différence.
Perché dentro il villaggio in qualche modo si riproduce questa situazione e dentro il cortile si riproduce.
Parce que dans le village, cette situation se reproduit. Dans la cour, cette situation se reproduit aussi.
E dentro casa si riproduce.
Dans la maison, c'est la même situation qui se reproduit.
Ecco, noi, come dire, noi ragioniamo, noi insulari, ragioniamo per differenze.
Et nous, en tant qu'insulaires, nous raisonnons sur la base des différences.
Voi della terraferma, della terra immensa,
vous de la terre immense,
ragionate per, come dire, per destino di unione in qualche modo.
Vous raisonnez avec un but d'union.
E avec des frontières.
E con frontiere.
Eh?
E con frontiere.
E con frontiere, sì, certo.
Merci. C'est toujours un rêve d'enfance, justement, ce qui arrive à ce. Au personnage ici. Si je reprends l'image qui a été donnée par Marcello, c'est vrai que au départ, l'histoire la plus connue, l'histoire de la littérature, c'est un garçon rencontre une fille. Et c'est un peu ce qui est au cœur de l'histoire au sens le plus superficiel. Et en fait, ça se passe très très mal. Il y a le rêve justement du retour au village. Il y a cette rage qui est peu à peu contenu, il y a la possibilité de retrouver cet amour d'enfance, et puis ça se passe pas très bien.
Alors c'est étonnant, parce que c'est exactement les deux exemples qu'a donné Marcello tout à l'heure. Hein. X veut rentrer chez lui, il n'y arrive pas. A veut aller avec B, il n'y arrive pas. Donc moi, j'aimerais X, il rentre chez lui, mais ça ne marche pas, donc il veut se mettre avec B. Donc c'est un peu l'histoire, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est... Donc j'ai lu le tout début du roman tout à l'heure, hein, et donc c'est quelqu'un qui rentre chez lui après être parti à la guerre et qui a perdu en rentrant la sensation d'être chez lui. Tout est là, tout est pareil, rien n'a bougé, les choses sont immuables, il est plus chez lui, il a perdu quelque chose dont il pensait que c'était une chose qu'on ne pouvait pas perdre. Et la seule chose à laquelle il arrive à se... rattaché, c'est
justement le souvenir d'enfance.
C'est un souvenir d'enfance. Donc un flirt vaguement poussé avec une... pas trop. Avec une jeune fille quand ils avaient tous les deux 14 ans. Et là, pour moi, dans ma tête, ils en ont 25. Hein, et il essaye de la retrouver. C'est la raison pour laquelle ça peut pas se passer bien. Parce que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on part à la rencontre d'un souvenir d'enfance, ça risque pas de se passer bien.
Non, parce que effectivement, le monde change, le monde bouge. Et celui qui part à la recherche de son souvenir d'enfance reste sur un temps qui est un temps ancien, ce que disait La Ferrière en début d'après-midi.
Pour moi, la raison, elle est plus, c'est même encore plus radicale, c'est que les gens, c'est pas des souvenirs d'enfance. On peut rencontrer quelqu'un, aller voir quelqu'un, mais on peut pas aller voir un souvenir d'enfance ou prendre dans ses bras un souvenir d'enfance. Enfin, j'ai pas appris grand chose à personne.
Certainement. Sauf que, encore une fois, les conséquences sont, là aussi assez radicales, et qu'on assiste à quelque chose qui est effectivement assez funèbre, mais qui est aussi une célébration sacrée. Le fait que le personnage passe des heures à regarder justement les oliviers et le ciel, et qu'il y revient, et que c'est là où ça s'arrête, devant ce paysage.
Ouais. Mais
Et devant, avec ce chien qui est
C'est toujours étrange d'essayer de se rappeler les préoccupations pratiques ou concrètes qu'on avait quand on écrivait un texte, et de voir après ce qu'il y a dans le texte. Pas ce que les gens disent, hein, mais ce qu'il y a vraiment dans le texte, auquel on n'avait pas pensé plus que ça en écrivant, ou un peu. Mais moi, Maya, c'était dans mon idée première. L'idée littéraire de naissance de ce texte, à part l'histoire autour de laquelle devait s'enrouler l'histoire que j'ai vaguement esquissée, c'est un texte sur le mysticisme, en fait.
Oui.
Et c'était ça l'idée. J'ai pensé à ça, j'ai pas pensé au village, j'ai pas pensé à la Corse du tout. Bon, maintenant je lis, je m'en rends compte. j'y pensais pas du tout. Moi j'essayais de faire un roman avec quelqu'un qui se rend compte, qui a une intuition mystique, hein, c'est pour ça que c'est Al-Hajj ce poète soufi qui revient tout le temps dans le roman. Qui a l'intuition que à un certain niveau de conscience, il n'y a plus de différence entre une caresse et un coup, que l'amour, s'il est parfait, il peut s'exprimer par un meurtre, que avoir trouvé quelque chose, quand on pense vraiment qu'on a tout perdu, absolument tout, c'est là qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, et ça, c'est des idées profondément soufies. Il suffit de lire n'importe quelle. C'est des idées que je. Moi, c'est une idée qui m'a toujours. Dès que je l'ai rencontrée, elle m'a vraiment frappé par son immense puissance esthétique et sa cruauté horrible. Et c'est ça que je voulais faire. C'est arriver à ce niveau où les opposés se réconcilient, hein, mais apparaissent comme étant. Une seule et même chose, et puis aussi que cette conscience pleine ne peut pas être vécue ou tolérée ou supportée. D'un autre côté, moi, je pense que cette vision-là, c'est pour moi la seule théodicée rationnelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime beaucoup les soufis. C'est que, étant donné l'état du monde, et si on veut concilier l'idée que le monde est comme il est et que Dieu est amour, alors il faut supposer que l'amour de Dieu s'exprime de manière horrible. Et que si je me fais exécuter et si on me martyrise en me coupant les pieds et les mains, c'est un signe de l'amour de Dieu. C'est affreux, mais c'est logique. je trouve. Hein, et c'est exactement. C'est l'histoire de l'âge, mais c'est pas. C'est l'histoire de l'âge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un. Mystique persan qui a écrit des poèmes en arabe, des poèmes absolument, à mon avis, absolument merveilleux, et qui a été exécuté à Bagdad au Xe siècle, hein, condamné à mort pour blasphème, pour un gros blasphème, parce qu'il a répété à plusieurs reprises « Je suis la vérité », et la vérité étant un des 99 noms de Dieu, c'est ça équivalait à courir dans les rues en disant « Je suis Dieu ». Et il a été supplicié de manière assez horrible, hein. Il a été fouetté, on lui a coupé les mains et les pieds, on l'a mis en croix et on l'a décapité à l'aube du lendemain. Apparemment, ce martyr, c'est quelque chose qu'il recherchait, hein, qu'il a attendu, provoqué, parce que moi, la manière dont je comprends les choses, c'est que c'était comme ça que lui les voyait, que ce supplice horrible, c'était la plus parfaite expression de l'amour de Dieu pour lui. Voilà, c'était ça l'idée.
En tout cas, ce qui est écrit dans les textes de Al-Hajj. Mais Al-Hajj a été aussi accusé pour d'autres raisons. C'est d'avoir été une sorte de leader politique et d'animateur des foules, et a été accusé, semble-t-il, injustement, mais ça fait longtemps que ça s'est produit, d'avoir été un des activistes dans la révolte des Anj, qui est un moment important de l'histoire de l'Iran. et qui a à voir justement avec la canne à sucre et avec l'esclavage. C'est une très mauvaise perche, mais c'est comme ça que les choses arrivent. Parce que au centre du souvenir d'enfance, dans le texte que vous avez lu, Daniel, il y a justement ce souvenir qui est là. Il y a cette présence, et là, on ne sait pas si ça fait partie de ce qui va être gardé ou ce qui va être effacé par l'enfant qui est mis en scène dans ce texte d'Ex-Il. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce souvenir de cette partie-là du monde, de cette idée-là du monde qui s'est inscrite dans la Guadeloupe et dont les retentissements sont encore très forts actuellement, de nos jours, en ce moment?
On n'en fait pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire une permanence de mémoire dont on aurait le devoir de raviver la présence tout le temps. On en fait ce que font tous les hommes, enfin, les humains partout, c'est-à-dire de la digestion, de l'oubli, qui ensuite nourrit comme une racine les floraisons à venir.
C'est ça, c'est la nourriture, c'est pas la mémoire insistante et obscène dont il est question. C'est comment est-ce que ça nourrit? Moi, ce que j'essaye de retrouver ici, c'est précisément dans ce regard de l'enfant qui quitte l'île dans laquelle tout s'est passé et toute une histoire s'est transmise. On le sait dans Tu, c'est l'enfance, on le sait dans d'autres textes, et qui part. Et qui, d'une certaine façon, le garde, le conserve, pas précieusement, mais c'est là. Et ça va alimenter, ça va justement permettre ou rendre possible un certain nombre de floraisons.
Oui, c'est-à-dire l'idée de création. C'est une erreur souvent de penser que nous venons de l'esclavage. Nous vient de la résistance à l'esclavage. Et c'est une chose que j'essaie d'affirmer à chaque fois et qui paraît étonnante pour beaucoup de gens, alors que c'est le principe sur lequel est fondée toute l'humanité, d'où l'importance du regard de l'enfance. Parce que l'enfant, il est dans l'histoire au même titre que l'adulte. La différence, c'est que lui, il a une fragilité qui fait qu'il n'est pas maître de l'histoire dans le présent de son enfance et qu'il y a donc une espèce de retard à l'allumage, en quelque sorte, de son action, et que c'est seulement dans sa conscience d'adulte qu'il pourra retrouver ce moment d'enfance qui pourtant a été constitutif de lui-même. Comme l'île sait qu'elle est un agglomérat de continents, c'est-à-dire de l'histoire du monde, où aucune île n'est seule. Les îles dont on parle, Sardaigne, Corse, se définissent par le fait que beaucoup de monde y est passé, et que donc on les connaît en plein milieu de la Méditerranée comme ça, c'est un enjeu. Quant à la Caraïbe, n'en parlons pas, puisque, encore une fois, tous les continents sont passés. C'est même l'endroit de l'Amérique où il y a le plus de mélange. Quand on pense à l'immensité du Nord, qui est anglophone, l'immensité du Sud, qui est hispanophone et lusophone, et que là, dans ce petit conglomérat d'une quarantaine d'îles, on a les trois, hein, francophone, anglophone, hispanophone, créole, et qu'elles se sont passées de l'une à l'autre, d'un conquérant à l'autre, ça paraît d'autant plus étonnant. Donc, l'histoire, c'est la domination de l'histoire par la création de quelque chose qui permet de la dépasser. Comme le monde adulte n'est pas le fait de faire un meurtre de l'enfant, mais au contraire, de le faire renaître, ce qui constitue la conscience adulte, c'est-à-dire la conscience d'un avant, hein, d'un passé, la conscience d'une fragilité, d'une incapacité à dominer ce moment passé, et en même temps la conscience que dans le présent, c'est-à-dire la conscience de sa force du présent dans le monde adulte, on va en quelque sorte être l'enfant plus la conscience. C'est-à-dire, ce que je répète tout ça, c'est l'idée de calcule tes forces et fais confiance à ta fragilité, c'est-à-dire que la mort qui est en nous toujours possible, et qui est tellement symbolisé par justement la petite enfance où le bébé il tombe et ou si on ne vient pas il meurt, etc. Et c'est notre expérience originelle à tous. On en sort par quelque chose qui est faux, c'est-à-dire l'île étant fragile, on dit on va faire un continent. Donc l'enfant étant faible, on va fabriquer un adulte avec le château fort en soi qui fera qu'on sera un homme continent. Et on tue l'enfant pour cela, et on l'enferme dans le tombeau, et on construit quelqu'un qui a en quelque sorte les apparences de la puissance, mais qui n'en ont pas, qui a le pouvoir, autrement dit, mais qui n'a pas la vraie puissance, qui est en quelque fois, qui est en, dans la profondeur, un équilibre entre la fragilité et la force. Et donc c'est en cela que dans beaucoup de romans de la Caraïbe fondamentaux, il y a toujours l'enfant. Parce qu'au fond, le regard de l'enfant n'est pas un regard innocent. L'enfant est celui qui sait, mais qui ne peut pas le dire, par exemple. Et curieusement, ça c'est très intéressant, parce qu'à ce moment-là, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui sait et qui ne le dit pas, c'est le monde autour de nous. Les humains ont le langage, les animaux s'expriment très simplement, mais quelque part, on a l'impression qu'il y a un grand silence du monde, par exemple des étoiles, et que puisqu'ils ne parlent pas, c'est qu'ils n'ont rien à dire, alors qu'il y a profondément quelque chose qui nous donne toutes nos métaphores littéraires, poétiques, voilà, puissance de la lune, de la pleine lune, dans le roman de Marcello, et que cette conscience, cette écoute que nous faisons, on appellera ça le poète, le musicien, le peintre qui écoute les couleurs, c'est profondément l'expérience originelle de l'enfance. Et donc, je crois qu'il y a une articulation, en effet, entre cette enfance qui nous sert ensuite à écrire et aussi qui nous montre la puissance qu'il peut y avoir de résistance à l'intérieur de cette illusion de fragilité. C'est-à-dire qu'en réalité, un enfant, c'est puissant. Un bébé, c'est puissant, puisqu'il va fabriquer un adulte avec moins que rien en apparence. Et que cette conscience, alors, elle est, je crois, la pulsion forte de la vie, c'est-à-dire la lave, le feu plus puissant que la montagne adulte ou continentale, et qui expliquera l'histoire, c'est-à-dire, oui, l'enfer de l'esclavage a été notre commencement. Non, ce n'est pas notre destin. Dès le début, la résistance a commencé, et c'est elle qui a permis l'histoire, c'est elle qui a permis l'avènement de cultures, de sociétés, etc.
Au départ, il y a la révolte.
Voilà, c'est-à-dire, il y a peut-être pas la révolte, mais en tout cas, la résistance. La résistance est silencieuse, elle ne se dit pas, elle est fragile. Elle emprunte les voies du maître, d'ailleurs, les armes du maître, en apparence. Donc on croit qu'on est aliéné, qu'on est toujours enfant, comme on dit, on est des grands-enfants, par exemple, souvent. On dit ça des insulaires. Des grands-enfants qui n'ont pas l'étendue, l'espace et le temps des continents disséolés. Et donc, il y a fondamentalement, je crois, quelque chose, c'est que c'est cette conscience fragile, autrement dit le roseau, hein, la canne à sucre qui nous constitue, qui donne la vitalité, la jouissance, et qui est rien d'autre qu'un dépassement des enfers originels qui sont toujours au départ. C'est-à-dire qu'on commence par la mort. C'est pas qu'on finit seulement par elle, on commence aussi par ça. Et la vie, c'est partir de cette conscience très très forte, donc du malheur, du mal. Alors, il se trouve qu'il y a des pays qui l'ont dans leur histoire, comme nous, aux Antilles, où on a la mémoire. Mais pas la mémoire au sens où on y pense tout le temps. Ça, c'est des stratégies pour les autres, ça. C'est du discours qui est d'ailleurs détestable, parce que j'appelle ça les recouleurs de chaînes, les déguisés en dominés. C'est tout simplement le cache de la maîtrise et des stratégies, encore une fois, de pouvoir et de maîtrise, cachées sous toutes les formes que l'homme peut trouver lorsqu'il fait semblant d'exiger le pouvoir au nom du fait qu'il ne l'avait pas avant et qu'il était victime. C'est-à-dire du chacun son tour dans l'oppression. C'est fréquent, ça, dans l'histoire. Quelque part, on essaie dans la Caraïbe d'échapper à ça. Quelque part, la Caraïbe n'est pas un lieu, par exemple, de pouvoir et de puissance. On n'est pas le phénomène massif pour l'histoire du monde, hein, qui a été l'abolition de l'esclavage, la résistance pour abolir l'esclavage. Seulement ça n'a jamais été une conquête, n'a jamais été au prix de la destruction des hommes, même destruction des maîtres, et n'a jamais été, par exemple, un acte ethnique ou racial. Même si ça peut étonner, on dit « Ah mais putain, c'est des Noirs qui ont... » Ben oui, et, c'est pas au nom d'eux. Et du coup, ça donne une littérature, à la différence peut-être de certaines littératures méditerranéennes, hein, qui sont, avec la masse de continents, de cultures et de religions, qui les constituent apparemment en conflit, alors que ce sont des cousinages comme nous, eh bien, chez nous, il y a cette idée que c'est avant tout par l'addition des autres que nous allons constituer l'humanité qui est la nôtre. Et non pas par la soustraction comme la Méditerranée, qui a été pourtant, qui a inventé les cousinages. Elle a inventé le plus grand des cousinages, le cousinage de trois monothéismes. Mais en même temps, avec l'idée de l'irréductibilité de l'un à l'autre, alors que ça s'est venu d'Afrique, quelque part, il y a une idée du recommencement possible avec ce que le XXe siècle a appris au monde, hein, avec par exemple Lévi-Strauss, c'est le bricolage qui constitue l'humanité. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir chacun, par exemple, son monothéisme et sa pureté irréductible à celle de l'autre, mais c'est au contraire dans le bricolage à partir de là que se constitue l'humanité, c'est-à-dire dans l'interprétation, par exemple, du texte originel, qui n'est pas une Bible au sens symbolique, mais qui au contraire fait pour que les hommes à chaque époque le relisent, le refassent, etc., au lieu de s'en servir comme d'un instrument de clôture de l'avenir au nom d'un passé qui serait figé. Toute la Caraïbe est une résistance à cette chose-là, c'est pour ça que quelque part c'est souvent le lieu de recommencement et d'enfance du monde, l'enfance étant liée à cette idée d'innocence, c'est-à-dire de refus de l'enfermement. Si on ne surveille pas l'enfant, il va aller dans la mer et puis il va continuer, puisque la mer est le point originel où on vient, et c'est une amie. Il va, comme je le faisais enfant, on va à la montagne pour la première fois, et moi je vais toucher le feu, et on se brûle, on touche, et il faut que quelqu'un vienne et enlève de là. Parce qu'il y a cette idée fondatrice que nous venons de la fusion originelle de ça. Nous sommes des enfants du volcan, de l'eau, de la terre, ça se voit dans notre corps. Mais quelque part, la vie, le monde, consiste à ensuite nous enlever de ça. Touche pas à l'air, touche pas à la terre, touche pas au feu, en plus, c'est pas à toi, enfin, toutes sortes de choses. Alors que le sentiment d'appartenance, par exemple, encore une fois, n'est pas constitutif de l'humain dans ce qu'on appellerait l'enfance de l'humanité, c'est-à-dire le moment fondateur qui nous pousse vers quoi ? Toujours vers des altérités. L'enfant n'est pas dans l'enfermement, mais vers le mouvement. Beaucoup de premiers romans ont commencé comme ça, V.S. Neil Paul, etc. Pourquoi ? Parce que dans la Caraïbe, l'addition de sociétés, de cultures et d'histoires et d'oppression était tellement forte qu'on a dit qu'on ne pouvait pas le dépasser. Vieille idée européenne qui consistait, par exemple, après la guerre, à dire « après Auschwitz, on ne peut pas écrire ». Alors que c'est au contraire à ce moment-là que commence l'écriture, que commence, pas au sens du témoignage du passé, mais au sens de la résistance à ce passé en jouant le jeu de la création, de la recréation, puisque toute oppression n'est fondée que sur une seule chose, la mort. Encore une fois, le maître, le dictateur, peut faire mourir, peut faire pleurer, mais ne peut pas faire vivre, ne peut pas faire chanter, ne peut pas rendre heureux et ne peut pas faire aimer. Et donc, quelque part, l'arme miraculeuse, comme dit Césaire, de l'amour, l'arme miraculeuse de l'élan vers l'autre pour créer le proche, est fondatrice pour quelque chose qui est la production, alors, littéraire, etc. Et n'est pas du tout dans une espèce d'écrasement d'une mémoire originelle qui serait de l'enfer, comme il y a eu dans toute l'humanité depuis sans doute les débuts de l'humanité. Et on le voit dans une scène comme celle qui est décrite là dans le roman de Giraud, mais qui est toujours la conscience pour un dépassement de cela. Vous voyez, on part d'une scène qui peut être simplement un truc horrible de bras cassés, de gens qu'on coupe en morceaux, bras, jambes, et puis on parle de philosophie soufie, et on parle de quelque chose et de message où on atteint une autre spiritualité. C'est donc bien qu'il y a en nous quelque chose qui est bien au-delà de ces choses matérielles par lesquelles on écrase l'humain, et donc on écrase l'adulte,
pour essayer d'enlever en lui ce moment de l'innocence. Alors je dirais dernière chose, c'est qu'il y a aussi autre chose. C'est que ce moment de l'enfance, c'est le, je disais, on a envie de toucher le feu, hein, dans une cheminée, il faut empêcher les enfants d'aller dedans. C'est aussi le moment de plus grande fusion avec ce grand tout qui est justement le monde, et qui est tout simplement le nourricier des métaphores du poète, de l'écrivain, du romancier, du peintre et du musicien. Et donc, quelque part, l'artiste, c'est celui qui, encore une fois, fait confiance à ce moment d'enfance du monde dans lequel on ne considère pas le monde comme l'étranger à dominer, la nature, mais comme quelqu'un qui nous constitue. Et il est vrai que dans la Caraïbe, dans tous nos romans, la nature est un décor, elle n'est pas un personnage. La lune est un personnage qui joue, qui influe sur ce qui va être fait dans la soirée. Je crois que c'est un point commun avec la Méditerranée par rapport au Nord. Que ça ne m'étonne pas que dans l'insularité méditerranéenne, qui est donc un condensé de l'Orient et de l'Occident, de l'Est et de l'Ouest, dans l'île qui est toujours une espèce de condensé comme ça des continents, on retrouve finalement dans nos trois textes une présence de la nature comme un décor qu'on prend, qu'on emmène avec soi, comme cette pleine lune qui joue un rôle, comme la pierre de soufrière qui, elle seule, par une odeur persistante, va... symboliser le feu ancien que les ancêtres ont utilisé pour libérer cette humanité.
Je vous remercie infiniment. Je pense qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Je tiens à vous remercier tous pour vos échanges et pour la qualité de vos échanges, et à remercier encore une fois Florence Verdet de nous avoir permis de nous rencontrer.